Et il est 18h10, passé de quelques secondes, et tu es bien sur Radio Campus Tour, le 99.5. Il est l'heure de Ghetto Blaster, ton rendez-vous musical proposé par la prog de Radio Campus. Ce soir, on met le cap à l'ouest, on file vers la mer des Caraïbes, vers les Antilles, Martinique, Guadeloupe, mais aussi Haïti et pourquoi pas d'autres îles, Sainte-Lucie, Porto Rico, on verra. Ce soir, on reçoit Sylvain qui est claviériste au son du Métro Combo avec Greg. Et Greg, il me semble, si je ne me trompe pas, que toi, tu es
aux percussions.
Et au chant.
On a 45 bonnes minutes devant nous pour que vous nous parliez de ce groupe, de ce combo qui a ambiancé dernièrement le Bateau Ivre. C'était le 11 janvier dernier pour la soirée Botafogo. On parlera aussi avec vous des musiques antillaises, car vous êtes des passionnés de ces musiques et de ces cultures. Et puis, bien évidemment, on écoutera de la musique, sinon c'est pas la peine. Et en plus, ça tombe bien parce que vous êtes arrivés avec les mains chargées de vinyle. Ça va, les gars ?
Eh ben ouais.
Ça va super.
Ça va super. Merci Seb pour l'invitation. C'est trop cool d'être là.
Eh ben ouais, parce que comme je l'ai dit à l'instant, on s'était vu le 11 janvier pour la soirée Botafogo. On avait eu un petit laps de temps pour discuter un peu de ce que vous prépariez pour ambiancer pour faire chalouper le Bateau Ivre. Mais on s'était dit voilà, qu'avoir un peu plus de temps pour pouvoir se faire plaisir, passer des vinyles et parler de musique antillaise, c'était quand même un peu plus cool.
C'est vrai que le programme était bien chargé quand même au bateau. Hein.
Donc, il y avait dans l'effervescence du début de soirée, il y avait, avec la musique à côté.
Ouais, je ne sais pas s'il y avait déjà eu ça d'ailleurs, un plateau comme ça, radio sur le bateau comme ça, là, c'était très très chouette.
Pas, effectivement,
je
ne
sais pas si vos collègues avaient fait ça.
On va commencer déjà peut-être, est-ce que vous pouvez nous repitcher, nous représenter Métro Combo et puis votre rencontre, vous, avec les musiques antillaises.
Je commence.
Allons-y,
je fais le début des phrases et tu fais la fin.
On va essayer.
Ça. Donc, Métro Combo, c'est un groupe de musique.
Antillaise, tourangeau, composé de 9
musiciens.
À 9 à 10 musiciens.
Voilà, c'est ça. Alors, il ne faut pas qu'on parle en même temps, ce n'est pas radiophonique non plus.
C'est vrai.
Et du coup, oui, donc des musiciens qui se sont rencontrés, comme tu le disais, Seb, autour de cette passion des musiques antillaises. Alors, passion de musique antillaise, peut-être que chacun en avait des noms de groupes en tête, on va y revenir tout à l'heure, mais voilà, en élargissant un peu nos spectres, parce que c'est aussi ça, faire de la musique ensemble, c'est aussi découvrir ce que les autres écoutent, et ça, c'est super, super chouette, en fait. Plus on joue ensemble, plus on progresse justement dans cette culture-là. Et pourquoi faire un groupe de musique antillaise ? Est-ce que c'était un coup de com ? Non, c'était pas un coup de com. Non, c'était.
Je sais même pas ce que ça voudrait dire. Mais non, un coup de cœur plutôt.
Je
pense que c'est quelque chose qui a dû nous réunir sur le dance floor plus d'une fois.
Ouais.
Et on est déjà, je pense, depuis. Enfin, pour ma part, avant les musiques proprement antillaises, on était déjà fans de toutes les musiques caribéennes, toutes les musiques tropicales, qu'elles soient latines ou racines africaines. Et donc, cette clave, ce rythme qu'on trouve irrésistible, voilà, on a eu envie de le jouer, de le partager, de le propager, quoi.
Et il se trouve qu'on se connaît on se connaissait depuis un certain temps, tous ensemble, parce qu'on a d'autres groupes musicaux et donc, voilà, on fait aussi beaucoup de fêtes, hein, tout, carrément. Et il y avait un peu une compile, la compile Anti-Chéri d'Emile Omar, qui nous a fait danser de nombreuses fois après les concerts, après les répètes, etc. Dont un morceau qui s'appelle Banzai, et je crois que c'est un des premiers. Ouais, c'est le premier morceau qu'on a repris, quoi.
Ouais, sûrement.
En fait, l'idée est un peu venue là, voilà, des morceaux qui nous faisaient danser. On s'est dit, bah tiens, il manque peut-être ça un peu à Tours ou même dans le coin. En fait, c'est des musiques qui sont souvent passées par les DJ, hein, et pourquoi pas essayer de la jouer en live, en fait. Donc au début, c'était vraiment ça, essayer. Et puis finalement, ça a plutôt bien marché parce que ça nous a, bon, en fait, ça nous a grave fait kiffer de voir que cette musique était non seulement très dansante, mais très riche. En fait, il y avait beaucoup de choses à creuser, que ça soit dans les parties cuivre. Tout le monde en a pour son argent. En fait, c'est ça qui est assez chouette. Et voilà, le répertoire s'est étoffé, la mayonnaise a pris, comme on dit. Et puis voilà comment ça s'est fait. Il y a maintenant 2 ans, c'est ça, 2 ans et demi à peu près.
Ouais,
c'est ça, je vois l'affiche. Ah bah tiens, 30 avril 2022, c'était notre premier concert, tu vois, là je vois les 10 ans de crossover au Bateau Ivre, il y avait Métro Combo.
3 ans.
Alors ça va faire 3 ans, ouais, ça va faire 3 ans, voilà.
Et puis justement, tu viens d'en parler de ce nom Métro Combo, tu nous disais au Bateau Ivre, qui lui-même racontait aussi quelque chose, est-ce que tu peux te rappeler
Bah ouais, est venu le moment où il fallait trouver un nom de groupe, alors on avait plein de jeux de mots plus ou moins heureux. Et puis
de plus ou moins bon ou mauvais goût,
de mauvais goût qu'on dira pas là. Et puis finalement, on a tourné autour de ce nom-là qui sonnait un peu comme on voulait. D'abord justement avec ce premier mot métro, référence au métropolitain, hein, donc clairement ceux qui habitent en France métropolitaine. Donc ça nous paraissait pas mal parce qu'on voulait avoir justement cette humilité et pas juste du tout faire de la récupération culturelle, hein, puisque on en reparlera aussi, mais on considère ça vraiment comme une musique française à part entière. Et puis Combo, voilà, il y a 20 000 groupes en Haïti, aux Antilles, qui s'appellent Combo. J'ai même cru comprendre que c'était aussi une référence à la bossa nova brésilienne. Enfin, voilà, c'est un mot un peu fourre-tout, mais finalement ça sonnait bien, ça parlait bien. Certains voulaient mettre l'adjectif super métro combo. On s'est dit qu'on va se calmer un petit peu. Et puis finalement.
Dans l'idée des superlatifs.
Le tout puissant, des choses comme
grand
ça.
Grand orchestre.
Il y a toujours ça en tête pour certains parmi nous de faire évoluer le nom avec le succès qui va arriver dans quelques semaines. de rajouter des superlatifs.
Oui, c'est ça. De rajouter des adjectifs à chaque belle date, comme ça, pour qu'à la fin on arrive à un super nom.
Ouais, c'est comme les évolutions de Pokémon. À la fin,
il y a
un Super Saiyan qui en sort. Si on se faisait tout de suite d'entrée de jeu une première pause musicale avec un des vinyles que vous avez venu pour démarrer, qui s'y colle, qui va aux platines, qu'est-ce qu'on pourrait balancer?
Écoute, j'ai déjà calé un morceau d'un groupe donc de la Martinique qui s'appelle La Selecta. Donc la Selecta Martinique, parce que je crois qu'il y a une autre Selecta en Guadeloupe, mais celui-là, c'est vraiment le groupe qui a le plus fonctionné, hein, Selecta Martinique. Et le morceau s'appelle Pani Travail, Pani Argent. Je pense que voilà, l'avantage aussi de cette langue, c'est que ça se comprend. On peut comprendre un petit peu le sens quand même des paroles. Donc c'est un super album, que dire d'autre, on les voit. Alors les pochettes sont toujours un peu incroyables dans les musiques antillaises. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à acheter sur cet album de la Selecta Martinique. Un autre morceau qui s'appelle La Politique, où il balance aussi pas mal. Un autre, Money First aussi. Les thèmes de l'argent, des voitures sont souvent assez présents dans les musiques antillaises. En tout cas, voilà, Seb, écoute, je te propose qu'on écoute Pani Travail.
On écoute ça tout de suite.
Thank you.
A pas ni travail, mais pas ni l'argent.
Oui, oui, pas ni travail, oui, oui, pas ni l'argent.
A pas ni travail, mais pas ni l'argent.
Oui, oui, pas ni travail, oui, oui, pas ni l'argent.
Nègre ni couaille, nègre qu'a pour faire la vie à camaché.
Oui, oui, pas ni travail, oui, oui, pas ni l'argent.
Nègre ni couaille, nègre qu'a pour faire la vie à camaché.
Tu nous écoutes toujours sur le 99.5, c'est Radio Campus Tour. Et ce que tu viens d'entendre là, c'est ce qui va nous accompagner durant toute cette émission jusqu'à 19h, les musiques antillaises au cœur de Ghetto Blaster avec Sylvain et Greg de Métro Combo. Alors, depuis le début de l'émission, je parle des musiques antillaises au pluriel. C'est important. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, tel des pères castors, de ces différents courants musicaux qui traverse les Antilles. Qu'est-ce qu'on trouve comme style musicaux ? Parce que je pense que pour beaucoup, bien souvent, ça se résume au zouk, mais il y a plein d'autres choses.
Ouais, bah, le zouk, c'est un peu le, disons, c'est un peu la petite sœur du compas et de la cadence qu'on propose avec Métro Combo, et où c'est à l'heure de l'avènement des synthétiseurs, en fait, ouais. Finalement, et de ils ont cherché à avoir un peu moins de musiciens dans les groupes pour pouvoir se déplacer plus simplement, j'imagine. Et donc, on va aller comme ça dans l'ordre décroissant, ouais. Peut-être, ça peut être pas mal.
C'est génial, ça.
Et donc, avant, on trouve le compas ou la cadence, selon les versions. Et là, on est du coup sur les mêmes bases rythmiques que le zouk, mais avec des instruments beaucoup plus acoustiques. Des percussions réelles et non pas des programmations synthé, des cuivres qui remplacent, qui dans le zouk étaient remplacés par encore une fois des synthés souvent chimiques et mais il y avait déjà un peu cette touch synthétique sur les claviers du compas. Ouais. Et puis voilà, du coup un grand nombre de personnes sur scène, il y avait souvent voilà. On arrive à des douzaines, des quinzaines de musiciens dans certains orchestres.
Des grands ensembles, ouais.
Des grands ensembles, ouais. Et voilà, moi j'ai tendance à, pour parler du compas, pour expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, de dire que c'est un peu comme un groupe de zouk, mais orchestré comme un groupe de salsa.
Et c'est bien ça, ouais.
Et c'est un peu ça que je retrouve, moi.
Ouais, ouais, carrément.
C'est-à-dire qu'il y a même certains groupes, j'imagine, qui ont plus un son latino qui tire vers ça et où tu retrouves, ça pourrait être de la salsa à certains moments, quoi. Enfin, il y a des appuis rythmiques qui sont assez, assez proches.
Bah oui, il y a une base de clave, en effet, qui ressemble vachement. Puis même dans certains jeux d'instru, tu vois, moi je prends pour le clavier,
le clavier,
c'est vraiment des Montuno qui ressemblent à la salsa. En fait, il faut se dire qu'il y a eu énormément d'influences entre les îles. Donc Cuba était une grosse influence, la République dominicaine également. Et puis aussi beaucoup les États-Unis, en fait. Donc, on retrouve dans ces premiers trucs de compas et des espèces de trucs un peu blues, soul, voire funk, tu vois, les intros de Tabou Combo,
ouais,
par exemple.
C'est
du gros funk aussi. C'est ajouté à ça, en plus, une diaspora haïtienne. Du coup, beaucoup d'Haïtiens sont partis aux États-Unis, notamment à New York, principalement pour faire leurs études, mais aussi pour fuir un régime qui était dictatorial avec Duvalier. Donc ça a beaucoup influencé cette musique-là. Et puis si on doit reculer encore un peu, on peut simplifier un petit peu ces trucs-là pour aller vers ce qu'on appelait les orchestres mini-jazz. Et on avait vraiment des choses, oui, qui ressemblaient au rhythm and blues, au jazz états-unien, avec une petite touche tropicale, hein, finalement, quoi. Et alors par contre, à côté de ça, quand même, dans les musiques vraiment antillaises françaises, les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, on a quand même un gros courant qui a été fondateur de tout ça. C'est vraiment un courant qui part du carnaval et qui touche vraiment les percussions et qui est donc tout le goka. Et donc ça, avec, alors moi je suis pas assez spécialiste, mais avec le tambour bêlé, les tambours bêlés, etc.
Ouais, j'allais parler de, que je regarde un peu, il y a aussi toute la culture autour de ça, des danses et de la musique bêlé, de la biguine aussi.
Oui, oui. Ouais. Alors là, on remonte encore avant, puisque là, si on fait dans l'autre sens, la biguine, c'était. Alors là, c'est plutôt influencé justement par les musiques européennes et les musiques classiques, en fait, hein, clairement, parce que on faisait ce qu'on appelle des quadrilles, des choses qui ressemblaient un petit peu à du menuet, en fait, hein, qui est vraiment de la musique classique européenne jouée à la sauce antillaise, en fait. Hein. Donc, c'était une musique cosmopolite qui a peut-être mis un peu de temps à chercher son identité. C'est vrai que les premiers groupes de compas ont vraiment apporté quelque chose de complètement nouveau et puis qui a un peu dépassé les îles, parce que finalement le compas c'est plutôt l'île d'Haïti.
Haïti, ouais, le compas direct.
Et compas direct, ouais. Et les groupes comme Kassav s'en sont complètement inspirés ensuite pour faire une musique complètement internationale. Donc il y a eu vraiment ce rayonnement à partir de, voilà, d'une stabilisation de, comme tu disais, hein, vraiment des gros orchestres et puis d'une musique plus codifiée, peut-être même tout simplement.
Est-ce que dans ces musiques, il y en a une qui est plus compliquée, en tout cas pour vous, en termes d'arrangement, de réinterprétation, dans l'approche, parce que techniquement plus compliquée, et peut-être plus liée aussi à une histoire ?
Alors, c'est rigolo parce que nous,
bonne question.
Ouais, nous en fait, dans notre répertoire qu'on continue de construire, parce que bon, là, la grande majorité de ce qu'on joue reste justement des emprunts ou des reprises en fait de ces musiques-là. On a tous nos morceaux un peu difficiles à jouer, c'est pas forcément les mêmes. Donc à la fin d'un morceau, on fait, oh putain, celui-là était dur et tout. Oh non, j'ai trouvé facile, moi ça allait. Et finalement, en termes de richesse, peut-être on peut plutôt dire, il y a les frères des gens, en fait, qui ont été vraiment très très une grosse influence, je pense, pour le reste de la musique haïtienne, et qui se démarquaient vraiment par leurs arrangements très très riches, quoi. C'était quand même là qu'on a commencé à travailler les premiers morceaux des Frères des Gens. On a fait waouh, les cuivres, on fait waouh, c'est incroyable, il se passe plein de choses.
Il se passe beaucoup de choses, ça change de grille d'accord très souvent. Il y a, voilà, si on veut tout écrire la structure du morceau sur une feuille A4, il faudrait écrire tout petit,
ah oui,
quoi.
Ah oui.
C'est des trucs donc à l'inverse de je sais pas, dans des choses plus récentes de zouk, voilà, là il y a une cellule rythmique et quatre accords qui se répètent. Là, c'est des choses qui sont très écrites, très, voilà, avec des mouvements différents qui nous amènent à.
Et des parties surprenantes où on ne s'y attend pas. Il y a un travail de composition dans Les Frères des Gens qui est complètement, complètement fou. À côté de ça, par exemple, s'il y a les morceaux de La Perfecta, ils sont super riches aussi en termes vocaux. Ils étaient 4 ou 5 chanteurs. Il y avait des voix. Apparemment, ils étaient très influencés des Beatles. Moi, j'ai jamais trouvé trop la ref Beatles dans la Perfecta. Ouais. Mais peut-être dans l'arrangement des voix, je sais pas trop.
Bah, dans le sens, c'est une machine à tube un peu ce groupe. Peut-être ouais, ça aussi qui fait penser ça. Dans le chant, il y a des espèces d'envolées lyriques un peu.
On en parlera de la Perfecta en fin d'émission. J'ai préparé un petit extrait d'un documentaire qui leur avait été consacré.
Ah, oui. Ah super. Génial. Ouais, c'est un peu l'incontournable du compas. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et tu me disais, pour la difficulté, il y a aussi ce qui est un peu, pour moi, qui fait la richesse du compas, c'est aussi les... Bon, forcément, je vais parler en tant que percussionniste, mais c'est la variété des tempos dans cette musique. Ça peut aller d'un truc vraiment lent, suave et tout, qui a directement donné le zouk, à des choses... c'est de l'ordre du sport, mais c'est de l'ordre du Usain Bolt, tu vois, 100 mètres. Il y a des tempos, mais qui sont incroyables. Et donc, voilà, sur le dance floor, comme derrière les instruments, ça peut être très sportif, quoi.
Ouais.
Et ça nous arrive, moi, ça m'arrive de, bah, voilà, d'avoir très chaud au bout de 3 minutes de congas, quoi. Il y a des trucs, c'est hallucinant d'entrain et de dynamisme, quoi.
Et puis ouais, nous là-dessus, et parfois on se retrouve un peu coincé aussi sur la section cuivre où on est obligé d'arranger par rapport à la section cuivre existante. Et donc notre pauvre tromboniste se retrouve à jouer des parties qui n'étaient pas prévues pour un trombone au départ. Et trombone, en termes de vélocité, de rapidité, c'est pas la même, quoi. Donc il faut un peu jouer du biceps. Et on lui tire son chapeau hein, quand même des fois parce que c'est lui qui doit amener un peu le truc sur des parties qui n'existaient pas auparavant, quoi.
Bon, cet après-midi, c'est moins compliqué qu'une partition de congas, c'est des platines. Je crois que Greg, tu as calé un vinyle. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Et ben justement, c'est pour illustrer un peu ce... Je parlais du tempo, là. Enfin, ça tombe bien, c'est par hasard. Mais c'est un morceau qui est très speed, qui vient du groupe Scorpio Universel.
Génial.
Donc, c'est un autre groupe de Haïti, cette fois-ci. Mais qui est enregistré, comme beaucoup de groupes haïtiens, plutôt à New York. Je ne sais pas trop quoi vous dire, à part bonne écoute. Si, quand même, je peux dire, le nom du morceau, c'est Casquette sous tête.
Quand on met casquette
sous tête,
moi pas attendre
sous tête.
Quand on met casquette
sous tête,
pas qu'à comprendre
sous tête.
Y a la mort, la mesa se va.
chauffé.
Oui.
Bon, 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 bon. Nous mettons la caille, nous tout chauffé comme ça.
Oh,
oh, malade, malade. Oh, 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 oh,
oh, oh. Si c'est chauffé, il chauffé, monsieur Vrayon H.
Tu écoutes Radio Campus Tour, c'est l'émission Ghetto Blaster. On est en plein dans les musiques antillaises avec Sylvain et Greg de Métro Combo. Donc là, on vient d'écouter Greg, donc un morceau qui était un peu plus, oui, effectivement, sur la rythmique. Il y avait beaucoup plus de tempo là.
Ouais, voilà, ça part très très fort. Comme tu disais, Sylvain, c'est un morceau de carnaval. Ouais. C'est des tempos qu'on retrouve vraiment voilà, ultra festifs, irrésistibles.
Ouais, tous les DP Express, c'était quand même le groupe des carnavals. Et t'as plein de... Chaque dernier morceau de face, c'est des trucs un peu comme ça, un peu speedo.
Et là, sur celui-ci, il y a aussi ce truc qui est assez fréquent dans le compas. C'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler un dance floor killer. C'est ce moment, c'est un morceau qui est plutôt speed. Et d'un coup, il y a un break et ils repartent tout mid-tempo. Ça casse le tempo par deux presque ou... voire plus. Et du coup, tu étais en transe depuis 5 minutes à bouger très vite et d'un coup, tu te retrouves à devoir tout ralentir, à faire des pas immenses et des gestes plus amples. Et voilà, ça nous fait toujours un effet incroyable quand on est en train de danser.
Breaking knees.
Et là, vous êtes venu avec des vinyles. Alors justement, comment sont diffusées, alors actuellement, ces musiques en France ? Est-ce qu'il y a aussi une histoire de leur diffusion ? Est-ce que ces musiques, elles arrivent dans les valises des Antillais qui s'installent en métropole dans les années 60-70, ces vinyles, comment ils se sont retrouvés ici ?
Eh ben c'est clairement du fait des maisons de disques, en fait. Hein. Clairement, ces maisons de disques... en fait, les vinyles étaient pressés en France et du coup, après, la distribution était restée beaucoup en France. Et puis également, dans les échanges au départ, c'est le Comic-Con, c'est ça, à chaque fois. Le fait que la métropole a eu besoin d'un grand nombre d'Antillais justement sur le marché du travail en France, je crois que c'est fin 60, début 70, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être plus tard, voilà, il y a eu forcément avec les gens, la musique qui est venue aussi, et notamment, j'aurais dû réviser ça avant de venir, un club à Paris, je ne sais plus comment il s'appelait, qui diffusait énormément de musique antillaise en fait. Et donc c'était vraiment une boîte de nuit, une discothèque. Le club Dorothée peut-être.
Un club parisien.
et donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est commencé à se diffuser. Et puis finalement, pour continuer là-dessus, beaucoup plus tard, avec un peu quand même une profusion de vinyle, ça a permis à plein d'apprentis diggers français qu'on est toujours, de trouver tous ces petits vinyles à 50 centimes, 1 euro en brocante. Et donc ça, c'était plutôt cool. Et on a pu découvrir cette musique-là à peu de frais, en fait, parce que finalement, tout le monde récupérait ça d'un voisin, d'un héritage ou des choses comme ça. Alors, on en trouve beaucoup moins maintenant, hein, des vinyles antillais à 50 centimes, parce ouais. que voilà, l'échange, la cote du vinyle étant scalée, c'est un peu plus rare maintenant. Mais c'est vrai que ça nous a permis à nous vraiment de découvrir tous ces artistes-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut venir avec des vinyles, ce qu'on pourrait peut-être plus faire maintenant d'ailleurs. Voilà.
Il me semble que c'est dans l'excellente série Le Monde de Demain, donc, ouais. qui parle du hip-hop, Dynasty, NTM, etc. Mais il y a une séquence où on voit le père de Joey Starr, de Didier Morville, qui était originaire
oui.
des Antilles. Et qui,
oui, complètement.
Qui passait ouais. des vinyles ouais. dans les années 70
dans
et qui avait.
Son mariage, etc.
Voilà, ouais. et il notait. Les vinyles n'étaient pas dans leur pochette pour pas que les gens puissent éventuellement lui piquer ses sets de vinyles. Et il mettait juste des numéros. Et à un moment donné, il dit à Didier d'aller le chercher, vinyle numéro 3 ou 4, et lui il a un petit carnet dans lequel il a noté à quoi ça correspond. Donc on voit qu'il y avait toute une espèce de science de comment on ambiance une soirée antillaise à Paris dans les années 70.
Une parano aussi,
peut-être aussi,
et peut-être un peu de parano. Je crois que pour les musiques antillaises, tout à l'heure tu as évoqué Kassab, je crois que c'est un groupe qui a contribué à populariser la musique antillaise aussi au-delà de la France, aux États-Unis, en Jamaïque, ouais. en Amérique latine aussi, je crois.
Et en Afrique aussi, beaucoup.
Et ouais. puis dans toutes les îles francophones à travers le monde.
Ouais, Nouvelle-Calédonie.
Il y a un docu où tu
ouais.
les suis en tournée sur Nouvelle-Calédonie, pas que les îles, mais je sais pas, en Guyane. C'est assez incroyable de voir l'influence qu'ils ont. Même eux hallucinent ouais. De l'accueil qu'ils leur ont réservé.
Enfin, pour moi, c'est assez significatif de ce qui a pu se passer. Et puis peut-être très humblement de ce qu'on veut défendre dans Metro Combo, c'est qu'eux ont vraiment eu à cœur de toujours chanter en créole. Et alors, pour quelles raisons au pluriel, je n'en sais rien. Peut-être que c'était aussi pourquoi faire autrement, d'ailleurs, tout simplement. Écoute, pourquoi aller chercher d'autres langues alors que finalement, en créole, ça se prête très bien. Le problème étant qu'à partir du moment où tu commences à être un peu internationalisé, on te pose la question, voire on te demande de chanter dans une autre langue que le créole. Toujours est-il qu'aux Victoires de la musique dans les années 80, je ne sais plus, ils se sont retrouvés donc dans cette catégorie qui était la catégorie musique du monde. Et là, ils se sont dit, attends, il y a un problème. Nous, on chante créole, mais on est un groupe français. Et pourquoi on ne se retrouve pas dans une catégorie, je ne sais pas, meilleur groupe francophone ou des choses comme ça. Donc, clairement, là, comme ils l'expliquent eux, et puis moi, je crois assez à ça, il y a eu un peu une scission, finalement, sur la vision de la France métropolitaine par rapport à ces musiques des anciennes colonies, hein, on peut dire. Donc, et on a toujours un problème avec ça, moi, je trouve. C'est toujours pas clair, hein, finalement. C'est, quand les gens viennent nous voir en concert, je ne pense pas qu'il y en a un seul qui se dit « Ouais, c'est une musique française, en fait. » Donc, c'est une musique des îles, c'est une musique du soleil, c'est un peu l'Afrique, c'est un peu tout ça. Oui, non, mais ça reste quand même de notre patrimoine, au même titre qu'un Fest-Noz ou alors aller voir des chants gascons. Et par rapport à ça, oui, un peu, on a regardé ça de haut, quoi, Kassav. Alors qu'à côté, Kassav, c'était des superstars planétaires, quoi. C'est Sting, je crois, qui a joué avec eux. Je sais plus les noms exactement, mais en attendant... On s'est retrouvé complètement, on regardait ça d'un œil très paternaliste, quand eux, en effet, c'était des stars incroyables, quoi.
Et concrètement, vous, Metro Combo, il a fallu apprendre aussi à chanter en créole, comment on fait, autodidacte, des gens pour vous aider, des partitions apprises sur le coup.
Il y a quelques paroles qui traînent dans les songbooks, un peu sur Internet. Il y a des applications sur téléphone qui permettent d'apprendre le créole aussi. Il y a une vraie ressemblance avec le français. C'est une langue phonétique, donc ça permet certaines libertés aussi, tout en respectant un peu le truc. Mais bon, il y a beaucoup d'orthographes qui n'avaient pas été complètement codifiés. Donc c'est sûr qu'on peut se permettre des choses. Et puis c'est super agréable de découvrir des mots un peu comme quand, on va en Bretagne ou en Corse et on apprend à dire bonjour ou des choses comme ça. Donc on apprend petit à petit. Et puis d'un autre côté, c'était aussi savoir de quoi ça parlait. Ça paraissait quand même pas mal de se dire, on chante des trucs, mais est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'ils racontent, quoi ? Ce qui était plutôt le cas.
Et par moment, ça parle de sujets. En fait, c'est dans cette région-là du monde, on met aussi des mots justement dans des musiques qui sont voilà, avec un tempo qui font danser, mais ça parle de société, de problèmes politiques, économiques, sociaux. On n'est pas toujours dans des paroles qui seraient juste la joie de faire la fête, quoi.
Ouais, complètement.
Ouais, absolument pas.
Et même quand c'est ça, il y a toujours un double sens, en fait. Même derrière, on veut dire un petit peu autre chose. Ça, ce qui paraît un petit peu normal quand connaît un petit peu l'évolution des musiques, on se rend compte que de toute façon, il y a une révolte quelque part dans ces chants-là. On ne peut pas faire juste de la musique parce qu'il fait beau, quoi.
Est-ce qu'on va aller se révolter une troisième fois sur les platines vinyles avec un titre, Sylvain ?
Eh bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut passer ? Allez, tiens, on va passer un titre que nos copains de Crossover ont passé à la soirée Botafogo au bateau ivre. L'artiste s'appelle Josie Valente. C'est une chanteuse assez connue de Guadeloupe.
On connaît bien Radio Campus parce qu'ils ont aussi abondé l'automate de diffusion de titres de cet artiste.
Ah, bah, c'est génial. Bah, là, ils ont dû passer le plus grand tube qu'on va se faire un plaisir de repasser. Le morceau s'appelle Disque Larayé. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. C'est que le disque était rayé, donc ça revenait toujours, et ça donnait l'idée de faire un morceau un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est Josie Valente, pardon, j'ai mal lu, Josie Valente. Voilà.
Et ben c'est parti. Radio Campus Tour, c'est l'émission Ghetto Blaster sur le 99.5. Ce soir, on fait un tour par l'arc caribéen, par toutes les musiques antillaises. On a parlé juste avant ce titre de Josie Valente qui s'appelait Disque Larayé, c'est ça ?
Ouais.
On a parlé de Kassav. On va parler un peu de vous, comment vous travaillez sur le repérage des morceaux à réinterpréter. C'est chacun qui a l'oreille sur des sons et des vinyles justement dans lesquels vous allez piocher des choses que vous pensez pouvoir réinterpréter. Il y a des créations originales, comment ça se passe ?
Et ben, c'est un mélange de tout ça. Bon, faut avouer qu'il y a eu quand même un gros travail de ta part, Sylvain, pour construire le répertoire initial. On était peut-être... Il y avait des évidences. Il y avait trois, quatre morceaux incontournables. Tu parlais de Kamikaze Banzai, ouais, de l'Expérience 7, par exemple. Ou La Divinité. Voilà. Bah, il y avait des choses incontournables. Et ensuite, ça s'est façonné au fur et à mesure de nos écoutes à chacun, de nos découvertes, achats de compiles, digues de vinyle, enfin, peu importe.
Ouais.
Et depuis, on a commencé aussi un travail de composition. Des morceaux du coup qui viennent de nous avec l'écriture pour chaque instrument, voilà, écriture de texte, en essayant de transposer, de traduire créole pour cette idée de garder la sonorité de la langue aussi. C'est un petit peu comme une manière de jouer, je pense, un effet sur, ouais, sur une guitare, une prise de son devant un pavillon d'un cuivre. Voilà, on a trouvé que c'était inhérent au style et à ce que ça véhicule que de le faire en créole. Donc forcément, c'est beaucoup plus long le processus que reprendre un morceau existant. Pour nous qui ne sommes pas créoles, qui ne parlons pas créole comme langue
natif,
maternelle.
Ouais.
Donc c'est un travail qu'on fait petit à petit depuis le début du groupe, mais
qui est toujours en filigrane, ouais, qui est toujours là. Je sais pas si on sait pas trop si l'idée c'est d'interpréter un jour que des compositions originales. Ce qu'on fait actuellement, c'est pour rester aussi dans l'esprit. C'est avant que la question se pose, on se dit bah oui, voilà, autant faire aussi des choses à notre sauce, voir ce que ça donne. Et puis après, pour compléter, Greg, c'est dans la construction aussi du set en live, c'est aussi avoir des morceaux qui ont un peu des esthétiques différentes, pour pas que ça lasse le public, hein, puis pour pas que ça nous lasse nous. C'est à quel moment du concert on va mettre des gros bangers, à quel moment on va calmer un petit peu. Enfin voilà, tout ce qui fait le sel du musicien, quoi.
Et justement, le public, quel retour depuis quelques années, là, maintenant que vous jouez, quel retour vous avez? Est-ce que, par exemple, Greg, là, tu parlais du créole, est-ce qu'on vous a déjà fait des retours là-dessus tiens, vous chantez en créole?
Eh ben, de manière quasi systématique. Il se trouve qu'il y a des personnes antillaises dans le public et à notre grande surprise, on a eu des bons retours de pensant qu'on était créole, tu vois, ou nous prétend, d'y avoir voyagé longtemps et habité suffisamment pour parler créole, pour pas les créoles. Et donc voilà, et aussi des retours tout simplement de gens. Qui ont été imprégnés de ces musiques de manière plus, dans leur enfance, par familiale, leur famille, par leur truc. Donc il y a des gens qui sont hyper émus de réentendre ça déjà, ça fait des réminiscences, etc. Et qui sont aussi parfois hyper émus de voir que c'est des métros qui jouent cette musique. Ça véhicule un truc de puissance de la musique au-delà du peuple, de l'ethnie ou de la géographie. Il y a un truc de la musique, elle est hors frontière, elle est hors tout ça. Et donc ça, quand on a cette remarque, c'est sûr que ça nous donne c'est très agréable d'une part, et ensuite c'est très même motivant et encourageant pour continuer à faire ça.
Je rebondis, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que clairement, je parlais de risque de réappropriation culturelle. Moi, je trouve que c'est vraiment... Le problème, en fait, il n'est pas là. Il est exactement comme tu le dis, Greg. Le problème, c'est qu'est-ce que tu mets dans la musique que tu joues, qu'elle soit antillaise ou du rap ou quoi que ce soit. En fait, on parle quoi? On parle d'honnêteté, on parle de sincérité. Et puis, on parle aussi d'un minimum de culture. C'est-à-dire que tu ne vas pas te lancer dans un style musical si tu ne connais que dalle, en fait. C'est juste ça. Donc, quand tu es là-dedans, que tu en écoutes depuis 20 ans, 5 ans, ou que tu as encore plein de choses à apprendre, à partir du moment où tu le fais avec le plus d'honnêteté possible, le public ne s'y trompe pas, en fait. Et la très très grande majorité des retours, c'est exactement comme tu dis, c'est beaucoup de joie et de reconnaissance de faire vivre encore cette zik, en fait.
Et on a parlé durant toute cette émission d'un groupe en filigrane. Là. Il a été question de la Perfecta. Alors justement, je vous propose, là on va écouter un très court extrait d'un documentaire qui a été fait par la chaîne de télévision la Martinique la Première. C'est un documentaire qui date de 2016, mais qu'on peut retrouver sur YouTube. On écoute un court extrait. C'est un des musiciens qui faisait partie de ce groupe, qui s'appelle Michel Gros-Desormeaux, qui nous parle de ses influences musicales.
Trinité, nous avons eu la chance d'être du côté de l'Atlantique et nous avons le privilège d'avoir un clair, mais vraiment mieux que la radio de la Martinique elle-même, les radios de Radio Margarita, Radio Cubana, et Radio du Venezuela aussi. Et on est en train de se gargariser de cette musique.
Voilà, on se gargarise des musiques qui viennent des radios vénézuéliennes, dominicaines et cubaines. Donc on l'aura compris, en fait, c'est un espace caribéen là, entre monde hispanophone, anglophone et francophone créole qui a fait, tu disais, fait le sel, bah, qui a fait justement le sel de toute cette musique. Peut-être un petit mot sur ce groupe, La Perfecta, qui a une place un peu singulière aussi dans ce paysage-là, parce que c'est un groupe majeur.
Ouais, c'est une vraie référence pour toutes les Antilles françaises. Un peu moins en France, c'est vrai que c'est pas le groupe le plus connu quand on parle en France métropolitaine, quand on parle du zouk, du compas, on pense pas forcément à La Perfecta, mais ça reste quand même une référence de longévité, une référence en fait dans les styles de musique, parce qu'en effet quand il parle là justement des radios vénézuéliennes, les premiers albums de La Perfecta sont super salsa quoi, ils sont super cubains. Il y a un live dans un club dont j'ai oublié le nom où on a vraiment l'impression d'avoir c'est la Fania All Stars, c'est un gros orchestre. Et petit à petit, oui, ils se sont un peu popisés, on pourrait dire. Alors popisés, pas forcément pour passer dans les grandes radios, mais voilà, ils ont trouvé un style à eux, oui, qui était plus influencé des musiques américaines pour faire voilà un groupe qui a commencé dans les années 60, qui ont terminé, ils n'ont pas encore terminé. Enfin là, c'est un peu plus compliqué maintenant La Perfecta parce que il y a un peu des scissions dans le groupe et puis il y en a pas mal qui sont décédés, notamment le chanteur charismatique Polo Albin qui est mort il y a pas longtemps. Mais voilà, ils existent toujours. Il y a le fils de Daniel Marie Alphonsine qui reprend des morceaux de La Perfecta. Donc c'est un très très gros héritage aux Antilles. Ouais.
Et est-ce qu'on a une dernière pause musicale pour conclure cette émission spéciale Antilles?
Oui.
Alors c'est Greg qui a la main sur le vinyle.
Ouais, on peut passer le morceau de cœur de notre cher chanteur de DP Express.
Ah, de DP Express. Ah oui, ouais. D'accord. Alors, DP Express, les difficiles de Pétionville. Donc voilà, encore un groupe de Haïti qui est caractérisé par le nombre incroyable des membres du groupe. Tu peux voir sur cette pochette.
Une bonne douzaine.
Ouais, si c'est pas 15, 16, je sais pas. J'ai pas compté, j'ai pas le temps. Mais donc là, c'est un morceau qui est rentré dans notre répertoire il y a pas longtemps qui s'appelle E, 4 E accent aigu, et qui représente bien. La richesse incroyable, l'inspiration des compositeurs, parce qu'il est très long, tout est relatif, mais voilà, il a une longueur qui lui permet d'exposer plein de thèmes différents, de tempos différents, d'énergie, et c'est un morceau qui nous a tout de suite plu et qui a été pour le coup un gros challenge à jouer pour toutes ces raisons-là, quoi.
Donc, on s'écoute ça tout de suite.
Et de DP Express.
Et puis je vous remercie parce que c'est avec ce et qu'on va se quitter. Merci à vous d'avoir permis de mettre en valeur toutes ces musiques sur ce créneau Ghetto Blaster, donc spécial musique antillaise. On se retrouve demain matin, rediff après le journal de RFI 8h10. Et puis prochaine date pour voir les Métro Combo, les gars.
Prochaine date, qu'est-ce qu'on a de... Alors, on fait quelques teufs privés en fait. Là prochainement. On joue au bar. C'est des copains qui ont fait un café-concert dans le bar du Seine-Vière, c'est près de Loche. Et c'est. Pour retrouver la date. C'est fin avril, et puis on fera de la com de toute façon.
23 avril,
voilà, c'est ça.
Merci, et puis on se quitte en musique.
pas jambou tourné. Faut toujours songer que yon moun pas jambou de voix. Faut pour pas chita pour n'a pas du temps. De même pour ne pas dire si n'te connaît. Essayez, fais yon bagay, comme c'est vite moun kap grandi. J'ai sous la tête de café dé, la vie déparait, ça perdit sa paque sens. Allez, dans vacances toute la vie, travaille du pour monter plus haut.
Toujours sous combat. m'ap dérapé, n'ap descend la lune.
Sous compas.